Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail. Au sommaire, la tendance du do-it-yourself fait de plus en plus d'adeptes en France, une pratique qui permet aux Français de faire des économies, en moyenne 272 euros par an. Elle apparaît comme une solution durable face à la crise du pouvoir d'achat. Conséquence, les consommateurs deviennent des experts du faire soi-même, quitte à vendre leurs propres services. Mes invités pour cette émission, Thierry Garnier, directeur général du groupe britannique Kingfisher, propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt, Elodie Abécassis, cofondatrice de la plateforme iMake, notre expert bien sûr, Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Et on commence tout de suite par l'actualité retail de la semaine avec notre journaliste Eva Jacot.
Focus Retail, l'actu de la semaine.
Eva Jacot, bonjour.
Bonjour Noémie.
Alors aujourd'hui, on peut pratiquement tout faire soi-même. Hein. Mais pour certaines activités, il est compliqué de laisser libre cours à sa créativité quand on n'a pas forcément beaucoup de place chez soi. Une société a décidé d'y remédier en ouvrant un lieu dédié à la créativité à Paris.
Oui, et ici, vous pourrez vous étaler, prendre toute la place que vous souhaitez et laisser votre imagination opérer. Alors, ce lieu s'appelle Mazette. Il s'agit d'un endroit atypique, hybride, de 150 mètres carrés, complètement centré sur le do-it-yourself. Alors, cet espace est un vrai laboratoire créatif, équipé de matériel professionnel. Alors, des machines, des outils sont mis à disposition pour les clients. On peut s'y rendre pour créer avec son propre matériel, sa matière première, ou bien on peut en acheter sur place dans la mercerie. Au total, Mazette regroupe 20 activités en libre service, de la couture à l'art graphique, en passant par l'art créatif, la création de bijoux avec de la résine ou encore du modelage.
Et si je ne souhaite pas fabriquer des bijoux, mais plutôt une table basse?
Eh bien, dans un premier temps, il faut réserver votre créneau, ou bien vous pouvez tout à fait passer à l'improviste. C'est 15 euros l'heure, le créneau d'une heure, avec la possibilité de vous abonner pour passer, par exemple, 4 heures de création dans cet endroit par semaine. Vous avez également la possibilité, une fois sur place, de consulter une plateforme de tuto. Et il y a également des conseillers qui sont là pour vous aider dans votre création.
Et si on veut apprendre à coudre, on peut se rendre chez Mondial Tissu. Le leader de la vente de tissus au mètre et de la mercerie en France lance des ateliers couture dans ses magasins.
Oui, alors l'année prochaine, c'est dans les 115 magasins Mondial Tissu que vous retrouverez donc ces ateliers couture. L'enseigne a mis en place un système de formation pour ses clients. L'année dernière, c'est plus de 15 000 personnes qui ont déjà été formées à la couture. Alors il s'agit d'ateliers où on peut venir pour apprendre à coudre, pour se perfectionner. C'est un atelier qui est aussi bien pour les débutants, les jeunes, les moins jeunes. C'est 10 euros de l'heure avec la possibilité de s'abonner à plusieurs ateliers. L'objectif ici, c'est de développer une communauté autour du do-it-yourself. Alors à la rentrée, Mondial Tissu organisera un atelier spécial do-it-yourself pour débutants avec des projets simples comme par exemple fabriquer des éléments réutilisables comme des lingettes démaquillantes, des sacs réutilisables ou encore des tote bags. Autre nouveauté également, on peut se rendre chez Mondial Tissu pour utiliser des machines à coudre en self-service.
Le do-it-yourself est aussi une manière de s'assurer pour les consommateurs que les produits qu'ils fabriquent sont bons pour eux. Est-ce que ces tissus sont vraiment écologiques ?
Alors oui, puisque l'activité de Mondial Tissu est éco-responsable. L'une de leurs valeurs, c'est de donner une seconde vie aux produits, faire de l'upcycling. L'enseigne a mis en place pour cela un troc au kilo, donc les clients peuvent ramener leur tissu contre un bon d'achat. Autre actu, jusqu'au 7 juin, Mondial Tissu organise une opération spéciale développement durable et toujours sur cette même lancée, en novembre, aura lieu un atelier green.
Le leader de la mercerie qui se met à la seconde main de la couture. On passe à la broderie sur mesure avec la marque Cœur Paris qui s'installe dans la capitale.
Oui, la marque vient d'ouvrir sa toute première boutique, une boutique atelier dans le 6e arrondissement de Paris. Alors, c'est un lieu de partage et de transmission où l'on peut même apercevoir les brodeuses travailler. Cœur Paris, c'est une ligne de vêtements qui fait de la broderie sur mesure. Elle fait de la personnalisation avec des messages personnels, des dessins, mais aussi des photos. La marque propose aussi des kits de broderie et des ateliers pour apprendre à broder, alors en ligne ou bien en magasin. Et les clients peuvent y personnaliser leur t-shirt vierge de la marque.
Alors, Cœur Paris, c'est une marque qui a déjà fait de nombreuses collaborations.
Oui, notamment avec des marques de prêt-à-porter, avec le concept store Colette ou encore American Apparel. Ce mois-ci, Cœur collabore avec Ben Simon qui proposera dès la rentrée une ligne de coussins ou de linge de lit brodé. Il y a également eu des collaborations avec des personnalités comme l'influenceuse italienne Chiara Ferragni et sa marque The Blonde Salad, l'illustratrice Lorraine Sorlet ou encore l'actrice Louise Bourgoin. Alors, la fondatrice envisage d'étendre l'enseignement de la broderie en Chine et au Japon, des pays qui sont sensibles à l'univers de la broderie qui se rapproche de l'esprit kawaii.
L'esprit kawaii, on ne connaît pas encore ce terme.
Alors, c'est des petits émoticônes, c'est des petites. C'est un petit peu comme des petits émoticônes que vous pouvez mettre un peu partout sur vos objets.
D'accord. Tout ce qui est mignon. Bon, en tout cas,
exactement.
On attend votre tutoriel broderie pour la semaine prochaine. Place désormais à notre expert.
Focus Retail, l'œil de l'expert.
L'œil de notre expert, Raphaël Palti, bonjour.
Bonjour,
Noémie. Vous êtes président fondateur d'Altavia et nous sommes aussi accompagnés de Thierry Garnier. Bonjour, vous êtes directeur général du groupe britannique Kingfisher, donc propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt. Alors, est-ce que vous connaissez déjà la mode kawaii dont on vient de parler?
Non, je ne connaissais pas, mais Thierry, je crois que vous connaissiez.
Bah, c'est typiquement japonais.
Typiquement
absolument,
japonais.
Absolument.
Bon, alors là, on va parler plus largement du do-it-yourself, donc largement plébiscité par les Français. 6% d'entre eux sont même des champions du faire soi-même, ce sont notamment des jeunes. Ils pratiquent au moins 8 activités. Alors, y a-t-il de plus en plus d'experts? Va-t-on vers une professionnalisation des consommateurs?
Absolument. C'est la naissance des pro-am. Pro-am ?
Vous allez me dire.
Professionnels amateurs, des amateurs professionnels.
D'accord.
De plus en plus de clients, de plus en plus de consommateurs se professionnalisent et c'est une tendance lourde du marché. On en voit dans tous les domaines, bricolage, jardinage, cuisine, les petits travaux à domicile, etc., etc. Et c'est une tendance assez lourde et on en voit de plus en plus par an. En gros, les motivations, c'est essentiellement de trouver un moyen de vendre par soi-même quelque part quelque chose issu de sa passion, issu de son savoir-faire, issu de son propre de sa propre identité. Et bien évidemment après Covid, ou plutôt pendant le Covid, ça a été la vraie révélation. Des gens qui voulaient changer de métier, ou des gens qui voulaient arrondir leur fin de mois, des gens qui cherchaient à mettre à profit leur véritable savoir-faire, limite professionnelle, au service d'autres gens. Et bien évidemment, on a vu sur les plateformes diverses et variées, comme Le Bon Coin, etc., pulluler le nombre d'offres, et ces gens-là sont même capables de créer des communautés de clients. Donc c'est un véritable commerce qui est en train de s'ouvrir.
Et comment les enseignes s'adaptent-elles à ces consommateurs devenus des pros? Peut-être Thierry Garnier, vous pouvez nous répondre.
Moi, je suis très intéressé par ce que vous dites, Raphaël. On a fait l'acquisition en 2020 d'une entreprise qui s'appelle Needhelp, qui est vraiment sur ce créneau, qui est un peu un Airbnb du job, hein, qui ça peut être des professionnels ou, comme vous l'indiquez, des professionnels amateurs. Et on a vu ces deux dernières années une très grosse croissance de Needhelp pendant Covid. C'est ce que vous décrivez.
Tout à fait dans la tendance. Et ça participe donc de la diversification de certaines enseignes. De même qu'IKEA a racheté, je crois, TaskRabbit.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Mais aussi, les enseignes se mettent à accompagner ce phénomène.
Comme Lidl, par exemple.
À base de contenu, de tutoriat.
Avec 7 Gecko. Hein, donc, c'est un rappeur sur Combini. Donc, c'est vrai que c'est totalement
Absolument.
Différent de ce qu'on voit d'habitude.
Absolument. C'est un impact sur l'offre, puisqu'on va même jusqu'à vendre des produits semi-professionnels au grand public, type Lidl aujourd'hui, qui vend des scies sauteuses, qui vend des scies très particulières.
Surjeteuses, on a dit.
Voilà, on a vu.
Ouais. Et bien évidemment, ça participe du lien client, puisque, en gros, les enseignes commencent à mobiliser un peu ces communautés de professionnels, de jeunes professionnels, pour les mettre au service de leurs propres clients. C'est-à-dire que, dans un système d'entraide, et montent des plateformes là-dessus, peut-être que demain, Castorama va proposer à ses clients de les mettre en relation avec ses amateurs professionnels, ses pro-âmes.
Ben justement, on va en parler. Vous avez pour ambition de développer ce marché dédié aux professionnels, notamment avec votre enseigne Screwfix, un centre de distribution qui va permettre d'accompagner donc, le développement de cette marque de bricolage en France. Où est-ce que vous allez vous implanter? Combien de magasins allez-vous ouvrir? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors, en Angleterre, on a deux grandes marques. Alors, en France, vous avez fait référence à Castorama et Brico Dépôt. En Angleterre, on gère B&Q, qui est vraiment une marque généraliste, et Screwfix, qui est vraiment une marque pour les professionnels et qui est un concept, j'ai eu la chance d'être dans beaucoup de pays, vraiment extraordinaire au plan mondial. C'est des petits magasins dédiés aux professionnels qui peuvent servir les clients en moins d'une minute. Alors ça paraît être une anecdote, mais vraiment en moins d'une minute. Et on a aujourd'hui 800 magasins en Angleterre, on est également en Irlande et on a considéré que le marché français...
Screwfix, c'est vraiment votre pépite en Angleterre.
Tout à fait, c'est vraiment considéré comme une des grandes pépites du groupe, même comme Brico Dépôt en France, pour mentionner aussi Brico Dépôt par exemple. Et on considère vraiment que le marché français a du potentiel. Donc on a démarré purement en ligne il y a un an, en avril 2021. Donc on a constitué une équipe, on a appris et on est prêt à ouvrir nos premiers magasins sur le deuxième semestre. On a en effet annoncé il y a quelques jours qu'on ouvrait un premier entrepôt dans la région parisienne et on a signé les premiers sites de nos premiers magasins. Donc je vous donnerai pas tous nos secrets.
C'est à proximité du centre de distribution.
C'est un peu tôt parce qu'on a aussi quelques concurrents qui nous regardent avec attention. Donc,
alors justement,
je ne livrerai pas tous nos secrets, mais on va ouvrir très bientôt.
À ce propos, Thierry, une chose, c'est pour moi une énigme. Comment vous expliquez que tout le monde, tout le marché du bricolage, se met à essayer de viser la clientèle pro? C'est vrai de Leroy Merlin, c'est vrai de tous les acteurs aujourd'hui, d'essayer de constituer une offre pro.
Alors, je pense
qu'ils étaient mal servis, les pros, avant?
Il y a deux choses. Il y a effectivement, on décrit les choses que vous faites vous-même et les choses que vous faites faire par d'autres. Ça peut être monter une cuisine, mais ça peut être des travaux plus lourds. Et le marché ce marché fait par les pros est en forte croissance. Et on a aussi appris, on a en Angleterre une marque qui s'appelle TradePoint, qui est dans un B&Q, en fait, dans un magasin comme Castorama, dédié aux professionnels. On a des grands concurrents américains comme
Home Depot.
Vous
avez un discount aussi au Royaume-Uni,
B&Q? Non, on n'a pas l'équivalent de Brico Dépôt. Brico Dépôt, c'est vraiment une marque de discount. Mais donc, on a aussi appris des grands concurrents américains comme Home Depot qui ont graduellement, sur plusieurs années, fait croître la part des ventes aux professionnels dans leurs magasins traditionnels. Et on croit que pour nous, c'est un très gros enjeu aussi pour le groupe Kingfisher. Voilà.
D'accord.
Vous avez publié vos résultats cette semaine avec un chiffre d'affaires en recul sur le premier trimestre de son exercice, donc 3,85 milliards d'euros. Comment expliquer cette baisse? La fin du confinement, des télétravails?
Oui, alors, en fait, on regarde beaucoup nos chiffres sur 3 ans, parce que l'année 2019...
Vos prévisions annuelles sont maintenues.
Voilà, on a maintenu les guidance. On avait donné une guidance de résultats en mars qu'on a confirmé. Mais globalement, en 2021, il y avait encore des périodes de lockdown très fortes. Donc, il faut vraiment regarder l'année 2019. Et en fait, on est très satisfait de ce premier trimestre de vente parce qu'on est en croissance de 16% par rapport à 2019. Mm-hmm. On a une hausse de nos ventes de e-commerce qui est très forte sur 3 ans. On a confirmé nos résultats, donc on a confiance pour cette année. Voilà.
En gros, Kingfisher va bien ou va mieux, on va dire, depuis que vous êtes arrivé, Thierry. Et à votre arrivée, vous avez changé complètement de stratégie, 180 degrés. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus?
En bref, je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir une très grande gamme d'enseignes différentes. En France, vous avez Castorama qui adresse finalement des consommateurs généralistes qui doivent autour du choix, du service. Brico Dépôt est en sec finalement de hard discount. En Angleterre, B&Q généraliste, Screwfix dédié aux professionnels. Et pour avoir passé de très nombreuses années dans la distribution, c'est très rare pour un distributeur d'être capable de maîtriser une enseigne généraliste, une enseigne de hard discount et une enseigne finalement destinée aux pros. Et par ailleurs, ce sont des très grandes marques, ce sont des marques qui sont renommées dans tous ces pays. De ce fait, avec l'équipe, puisqu'on a fait la stratégie avec l'équipe, on considère qu'on doit s'appuyer sur la très grande force de cette enseigne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des choses ensemble, mais c'est une chance qu'on ait des enseignes aussi différentes.
Oui, parce que la stratégie précédente mutualisait énormément le tout.
Voilà, c'est ce qu'on va dire. Avec une orientation qui était plutôt d'avoir une homogénéisation plus forte de toutes ces enseignes. Et donc, nous, on croit qu'on doit avoir nos marques propres faites ensemble. Hein. Les marques propres pour Kingfisher, c'est à peu près 50% de nos chiffres d'affaires. C'est très considérable. On doit avoir de la technologie faite ensemble, mais Brico Dépôt et Castorama doivent avoir leur propre stratégie.
Alors, vous parlez de Castorama. Vous déployez aussi le commerce de proximité avec les magasins Casto, donc installés au cœur des villes. Vous avez ouvert un Casto à Lille, qu'on a visité d'ailleurs, puis d'autres depuis au Lila, puis à Levallois-Perret. Donc vous reprenez les codes de la droguerie traditionnelle avec un service personnalisé, un assortiment réduit. Est-ce que vous allez vous développer dans des zones rurales ?
Alors, vous avez raison, on croit dans les grandes tendances de la distribution, et c'est vrai pour notre métier, mais c'est vrai pour d'autres métiers de la distribution, on croit qu'on aura besoin de plus petits formats, de plus petits magasins, notamment dans les villes. Il faut apprendre à les faire, hein. On passe pas d'un très grand magasin à un petit comme ça. Donc on a à peu près une trentaine de magasins en test. Vous avez cité les trois magasins chez Casto, mais on a plus d'une vingtaine de mini B&Q, on a aussi des mini Casto en Pologne, et on croit beaucoup à ce format.
Votre marché de Pologne, enfin,
on est le premier distributeur en Pologne. Hein, et donc, en effet, on considère que c'est un axe stratégique pour nous, je dirais, d'apprendre d'abord à faire des petits formats et ensuite de les développer.
Et puis, au-delà d'occuper les territoires comme ça, il y a, je crois, en Angleterre, je crois que vous êtes capable de livrer en moins d'une heure tout anglais. Est-ce que ça sera le cas en France, au-delà de cette implantation territoriale ?
Alors, on croit beaucoup à la vitesse dans le e-commerce, hein. Et je crois que si on veut résister aux grandes plateformes, notamment aux grandes plateformes américaines, il faut qu'on sache utiliser nos magasins comme un actif clé dans le e-commerce. Donc on a aussi en 2020 changé assez radicalement notre façon de faire le e-commerce. On se repose principalement sur la préparation en magasin, sur un click and collect très rapide. Donc en moyenne dans le groupe, vous avez un click and collect en une heure, parfois deux heures, mais on essaye de tendre en dessous d'une heure. Screwfix, ça peut sembler une blague, mais click and collect en une minute. Hein, vraiment, vous êtes dans le magasin.
C'est possible, ça.
C'est possible. Et donc parce qu'on peut faire le click and collect en une minute, on fait aujourd'hui la livraison à domicile en moins d'une heure. 40% en Angleterre, pas encore toute l'Angleterre, mais c'est considérable. En moyenne, en 45 minutes, vous pouvez avoir un produit, c'est très vrai pour les artisans, livré sur un chantier ou à domicile.
Alors, vous venez, juste avant Kingfisher, de Chine, où vous avez passé plusieurs années. Qu'est-ce que vous a apporté la naissance du New Commerce, comme on l'appelle en Chine, par rapport à ce que vous apportez aujourd'hui chez Kingfisher ? En gros, c'est quels enseignements vous tirez de la Chine et qu'est-ce que vous vous adaptez à l'intérieur du groupe aujourd'hui ?
Alors, deux choses, et vraiment sur le digital. Un, qu'on peut faire beaucoup au travers de la préparation magasin. Je dirais, il y a 10-15 ans, toutes les grandes entreprises regardaient des gros centres de distribution, des gros fulfillment centers pour livrer les clients en 5 ou 6 jours avec un assortiment assez standard. Et aujourd'hui, on considère qu'utiliser les magasins pour préparer des commandes, les livrer vite à domicile et permettre de délivrer vite, vous avez besoin de magasins pour faire ça. Le deuxième axe, c'est les marketplaces, le choix, hein, Alibaba, Amazon, etc. Donc on vient de lancer début mars une très grosse marketplace en Angleterre.
Partenariat avec Back Market.
Back Market et Miracle, qui est une grosse start-up française. Et vous pouvez attendre de nous que cette marketplace va venir en France rapidement et dans d'autres pays du groupe. Voilà, c'est tous ces deux sujets, vitesse et choix.
Merci. On va tout de suite passer aux chiffres de la semaine.
Focus Retail, le chiffre de la semaine.
La tendance du do-it-yourself qu'on compare aussi au système D ne date pas d'hier. Elle apparaît pour la première fois au début du XXe siècle avec ses premiers magazines spécialisés. La technique se répand ensuite dans les années 90. Aujourd'hui, elle est largement plébiscitée par les Français, par presque tous les Français.
Raphaël. Alors, presque tous les Français, puisque c'est 96% d'entre eux qui, en 20, déclarent faire du do-it-yourself. L'année 20, c'est l'année du Covid, mais en même temps, la tendance...
Le Covid qui a accentué, donc,
qui a accentué le phénomène et qui aujourd'hui semble être très résilient. C'est-à-dire ce phénomène-là persiste. Donc c'est quasiment tous les Français qui, d'une façon ou d'une autre, se sont mis au do-it-yourself. Bien sûr, dedans, il y a la cuisine, dont on sait faire la cuisine, dont on sait que tous les Français se sont remis à faire la cuisine.
Et mais aussi le bricolage, le
pain, les parfums, le bricolage, le jardinage, les petits travaux manuels, etc. Bref, aujourd'hui, il y a un engouement pour cette pratique.
Et comment expliquer cet engouement, passion pour le faire soi-même?
Alors, les motivations, elles sont à la fois d'ordre économique, coûte moins cher. Elles sont d'ordre environnemental, ça protège la planète, je sais ce que je fais, etc. Et elles sont d'ordre aussi de souhait de transparence. C'est-à-dire, je sais ce que je mets dans mes produits cosmétiques, dans mes produits d'hygiène, etc. Je sais et je maîtrise le tracing ou le tracking de ce qu'il y a dans mon produit. Donc cette notion de transparence et je maîtrise les choses est importante. Mais aussi, on se découvre des passions et on aime bien ça.
Bah oui. Et comme vous l'avez mentionné, une des premières motivations est économique. Réparer certains produits coûte cher, c'est notamment le cas des voitures. Alors, pour entretenir les véhicules sans se ruiner, un concept de garage à le vent en poupe.
Absolument, notamment Repareco, qu'on a décelé comme étant la pépite de la semaine. Il n'y a que 3 implantations pour l'instant, mais pour l'instant, ce que vous appelez le self-garage, il y en a près de 200 en France. Qu'est-ce que c'est? C'est un garage, il y a des ponts élévateurs, il y a des outils, ils sont mis à la disposition des gens qui individuellement viennent faire leur propre réparation.
Comment faire si maintenant je souhaite réparer un feu et que je n'y connais absolument rien?
À ce moment-là, on vous met en relation avec ces fameux pro-am, professionnels amateurs, lesquels sont souvent dans des statuts d'auto-entrepreneurs, etc. Et viennent vous donner un coup de main parce que vous avez des plateformes aujourd'hui qui les accueillent et qui font savoir leur savoir-faire. C'est aussi une activité communautaire, et notamment par rapport à la voiture. Vous avez plein de communautés, communautés de tuning, communautés de voitures anciennes, communautés, et on vient en communauté, en petit club, se faire ses réparations, etc. Donc il y a un engouement aussi réel là-dessus. Au-delà du do it yourself, il y a ce côté je fais moi-même, j'ai plaisir à le faire et j'y gagne.
Merci Raphaël. Tout de suite, la start-up de la semaine.
Focus Retail, le pitch.
Elodie Abicassis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice et présidente d'iMake, donc une plateforme spécialisée dans le do-it-yourself. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plateforme?
Alors iMake est effectivement une plateforme qui propose à la fois des conseils, des tutoriels et des fournitures. Aujourd'hui, 500 000 références de fournitures pour tout faire soi-même. Donc concrètement, nous allons de la mercerie, bijoux, décoration, également aux cosmétiques ou aux produits d'entretien maison, et jusqu'au jardinage ou également à la cuisine. Donc toutes les activités que vous pouvez finalement faire vous-même plutôt que d'acheter le produit fini.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ne se contentent plus seulement de réparer, de recycler les objets. Ils se lancent aussi dans la fabrication de produits plus pointus, donc comme les produits ménagers ou encore des produits de beauté. Vous nous en avez amené sur ce plateau.
Exactement. Je vous ai apporté quelques ingrédients pour vous illustrer, en fait, donc des huiles végétales, par exemple, avec lesquelles vous pouvez faire votre propre crème de jour ou crème de nuit. Et finalement, cela a 4 avantages. Le premier, c'est que c'est d'abord bien mieux pour la planète. Vous limitez vos déchets. Le deuxième, c'est beaucoup plus authentique et transparent. Vous connaissez les ingrédients de ce que vous allez mettre sur votre peau ou de ce que vous allez consommer. Le troisième, c'est un vrai réel gain de pouvoir d'achat. On parle beaucoup de ce sujet en ce moment. Cela vous coûte en moyenne 10 fois moins cher de faire vos produits ménagers ou votre produit cosmétique. Et enfin, c'est une satisfaction aussi de petit à petit retrouver le sens de l'avoir fait soi-même et la satisfaction de la réalisation.
Comment vous est venue cette idée ?
Alors au départ, ça part de 2 choses. Un vrai besoin personnel de se dire, en réalité, j'adore créer, mais il est très difficile de trouver les matières. Tout le monde n'a pas un magasin de bricolage ou de fourniture.
Donc vous êtes une faiseuse.
Exactement. Moi, je suis ce qu'on appelle un peu une makeuse, quelqu'un qui aime faire des choses, mais qui avait du mal à trouver ses fournitures parce que tout le monde n'habite pas dans une grande ville. Et finalement, nous sommes 100% en ligne. Et donc, vous avez accès à ces 500 000 fournitures. Aucun magasin ne pourrait faire rentrer 500 000 fournitures ou références dans un entrepôt, même très grand. Et donc, vous avez accès à un très large choix et vous êtes livré chez vous en 24-48 heures. Donc voilà, ça part d'un besoin personnel et d'une vraie tendance de fond de marché sur le do-it-yourself et les gens ont envie de faire mais manquer aujourd'hui de fournitures.
Quand vous dites que c'est pas possible un magasin, est-ce que quand même ça mériterait pas, parce que je suppose qu'il y a du coup toute une communauté qui se met en forme, la naissance d'une communauté, est-ce que ça mériterait pas un jour un lieu, tout ça?
Alors, effectivement, la communauté est très importante chez iMake, et nous l'avons plutôt choisi avec des lieux éphémères ou des moments éphémères. Donc, par exemple, la semaine dernière, lors de la journée du do-it-yourself en partenariat avec Pinterest, nous avions une centaine de personnes réunies dans un lieu pour faire des ateliers créatifs. Donc, par exemple, fabriquer son eyeliner, fabriquer une broche en laine cardée, donc de la déco ou de la mode, des accessoires, mais de manière éphémère pour rassembler autour d'une passion. La communauté est effectivement très importante. Nous avons aujourd'hui 25 millions de vues mensuelles sur Pinterest du contenu iMake. Et tout ça, c'est parce que plusieurs millions de personnes partagent en France la même passion et la même envie de partager.
Merci Elodie Abicassis. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et présidente d'iMake. Je pense qu'avec cette émission, on va tous se mettre au do-it-yourself. On va commencer par faire simple. Pourquoi pas un dentifrice?
Qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je fais beaucoup de jardinage.
Allez.
Voilà.
Bon, ben moi, je vais essayer un dentifrice, pourquoi pas, pour commencer. On parle des produits de beauté. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
Merci.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.